Toute participation, on peut la regarder de deux manières. On regarde la source de la participation et on regarde l'effet de la participation. Et la participation comme telle peut être aussi bien l'un ou l'autre. Donc je peux rester uniquement au niveau de la participation. La participation, c'est la diffusion. Hein. Diffusa est. Diffusa est. Ce qui est diffus, c'est la participation. Alors je peux la regarder aussi bien du côté de la cause, c'est l'Esprit Saint, du côté de l'effet, c'est l'exis. Donc le corps de l'article est très facile à comprendre. Hein. C'est de montrer que la charité, c'est la vie éternelle en nous. C'est la vie éternelle en nous. La charité, c'est de vivre de ce que Dieu vit éternellement. Dieu vit par l'Esprit Saint et dans l'Esprit Saint. Il vit de cet amour éternel. Alors, si la charité, c'est cette vie éternelle d'amour qui est dans la très sainte Trinité, on comprend comment la charité ne peut pas être quelque chose d'acquis qui provient de nous. La charité ne peut être que quelque chose d'infus. Qui dit infus, dit justement quelque chose qui nous est donné gratuitement. Et la charité nous est donnée gratuitement par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui agit au plus intime de notre âme, au plus intime de notre volonté. Nous ne pouvons pas, nous, agir sur un autre de cette manière-là. Je ne peux pas vous infuser quelque chose. Hein. Ce serait trop commode. Seul l'Esprit Saint peut le faire. On agit de l'extérieur. Nous, on persuade quelqu'un. Faites attention, faites attention. Alors on persuade, on agit de l'extérieur. L'Esprit Saint seul agit de l'intérieur. Ouais, c'était ce bon maître en théologie ou en philosophie qui disait « Je peux bien vous communiquer l'intelligible, mais pas l'intelligence. » N'est-ce pas ? Alors je peux bien vous communiquer ce que je crois être le meilleur pour vous, mais je ne peux pas vouloir pour vous. Je peux bien vous persuader de la manière, mais je ne peux pas vouloir pour vous. Tandis que l'Esprit Saint peut vouloir pour nous. C'est ça qui est merveilleux. Parce que lui, il agit de l'intérieur. Alors il assouplit notre volonté. Nous ne pouvons que persuader. Dire voilà votre bien, voilà ce qui me semble bien être votre bien. Et puis alors, si on est très éloquent, on persuade en disant oui, voyez bien, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On agit tous les jours. C'est ce qu'on fait quand on voit quelqu'un qui est en état de péril. Alors on le persuade. Non, attention, attention. Mais je ne peux pas agir sur sa volonté. Et je suis bien obligé de reconnaître. Mais en définitive, c'est vous qui choisissez. Mais ne choisissez pas seul, choisissez avec l'Esprit Saint. Alors si vous choisissez avec l'Esprit Saint, ça va. Mais si vous choisissez seul, vous risquez de vous confondre. Tandis que si vous choisissez avec l'Esprit Saint, il n'y a pas de danger. Là, l'Esprit Saint, lui, agit directement du dedans. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça le propre de l'action de l'Esprit Saint au plus intime de notre cœur, au plus intime de notre volonté. L'Esprit Saint est plus présent à notre volonté que notre volonté n'est présente à elle-même. C'est pour ça que l'action de l'Esprit Saint est si douce et si forte. Suaviter et fortiter. Et les deux, le fortiter pour montrer la transcendance, et le suaviter pour montrer l'immanence. Il agit de l'intérieur, donc il agit suaviter, avec la plus grande suavité qui soit. C'est pour ça qu'on ne s'en aperçoit pas toujours. C'est ça qui est merveilleux. Je ne m'aperçois pas toujours. Si le Saint-Esprit agissait toujours fortiter, je m'apercevrais. Mais il agit fortiter et suaviter. Et alors, de temps en temps, le Saint-Esprit s'insinue d'une manière telle qu'on ne s'en aperçoit même pas. Parce qu'il agit de l'intérieur. Donc, c'est facile, ça, je crois, à comprendre. Que la grâce est infusée par l'Esprit Saint. Elle nous est donnée par l'Esprit Saint. La charité, quoi. Alors, voyons l'objection. Ce qui est commun à tous les êtres créés doit par nature appartenir à l'homme. Mais, dit Denis, le bien divin est aimable et attirant pour tous. Et ce bien divin est l'objet de la charité. La charité n'est donc pas infusée d'en haut, elle fait partie de nos inclinations naturelles. Le naturalisme, là. C'est-à-dire tout amour vient de Dieu, et donc l'amour naturel comme l'amour surnaturel, pas de distinction. Denis parle d'un amour de Dieu basé sur la communication de biens naturels. Cet amour de Dieu existe naturellement en tous les êtres créés. Tous les êtres créés ont un appétit naturel de Dieu. Sans le savoir, hein, le petit oiseau a un appétit naturel de Dieu quand il fait son nid. Il a un appétit naturel de Dieu. La partie a un appétit naturel à l'égard de son tout. Et c'est Dieu qui est le tout. Et donc tout être a naturellement un appétit vers le bien, normalement. Et avoir cet appétit, c'est un appétit vers Dieu. Mais la charité est fondée sur une communication surnaturelle. On dirait aujourd'hui communication surnaturelle et personnelle. Vous voyez, je ne passe pas par le tout. C'est là la différence. Il y a le point de vue de la partie. C'est intéressant. Il y a le point de vue du tout et le point de vue personnel. Je crois qu'il faut bien comprendre les différences. Vous voyez, Denis montre que chaque partie aime le tout. On aime naturellement le tout. Naturellement. Chaque partie a un appétit naturel vers le tout. C'est vrai, c'est un appétit naturel vers le tout parce que le tout est plus que lui. Donc chaque partie. Mais ça, c'est un appétit naturel. Tandis qu'au contraire, l'agapé, la charité, nous relie immédiatement à l'Esprit Saint, sans passer par le tout, en quelque sorte. C'est ça que j'ai dit, là, il y a la contemplation. Tandis qu'au contraire, la partie vers le tout, c'est le point de vue politique, si j'ose dire, politique au très grand sens. Vous voyez, c'est le point de vue de la partie vers le tout. Toute partie est ordonnée vers le tout. Attention, oui, c'est très vrai. Ça, c'est l'appétit naturel. L'appétit naturel. L'appétit naturel de la partie vers le tout. Mais la charité, c'est beaucoup plus que ça. C'est un lien personnel avec l'Esprit Saint. Et c'est plus seulement une partie, c'est l'ami. Je deviens l'ami de l'Esprit Saint qui est mon ami. Or, dans l'amour d'amitié, c'est pas partie et tout. Dans l'amour d'amitié, c'est la personne avec une personne. Vous voyez, c'est ça qui est si grand dans l'agapé, c'est que c'est l'ami à l'égard de son ami. Le bien-aimé à l'égard du bien-aimé. Je crois que ça, on peut facilement le comprendre. Seconde objection. Plus une réalité est aimable, et plus aisément elle peut être aimée. Or, Dieu est souverainement aimable, puisqu'il est souverainement bon. Il est donc plus facile de l'aimer que d'aimer toutes les autres choses. C'est extrêmement net. Hein. Or, pour aimer celle-ci, pas n'est besoin d'habitus infus. Il n'est donc pas nécessaire d'un habitus infus pour aimer Dieu. C'est tellement naturel, c'est tellement normal. On voit très bien ça. Ça, c'est la grande tante, la vieille tante. Il disait, c'est tellement naturel d'aimer Dieu. Il n'y a rien de plus naturel que d'aimer Dieu. C'est tellement normal. Attention. Alors, saint Thomas répond... Dieu est éminemment connaissable en lui-même, mais non point par nous. C'est tout simplement ça, elle a oublié quelque chose. Mais non point par nous, à cause de la déficience de notre connaissance, qui est en dépendance des réalités sensibles. De même, Dieu est en lui-même souverainement aimable, tous d'accord, puisqu'il est l'objet de la béatitude. Cependant, il ne se présente pas pour nous de la sorte, comme ce qu'il faut aimer le plus. Car l'inclination de nos amours se porte vers les biens accessibles à notre connaissance. Il est donc clair que la charité doit être infusée dans nos cœurs pour que nous aimions Dieu par-dessus tout. Il n'y a pas un amour naturel. Vous voyez ? Un amour naturel. Il y a un amour naturel de la partie à l'égard du tout. Mais il n'y a pas un amour naturel à l'égard de la très sainte Trinité, à l'égard de l'Esprit Saint comme tel. Mais il y a un amour naturel de la partie à l'égard du tout. Alors ça ne va pas très loin, l'amour naturel de la partie à l'égard du tout, parce que quand on est dans un état passionnel, on ne voit pas très bien le tout. Le chocolat devient monstrueux. Il cache le tout. C'est un sensible qui prend tout et qui devient tout du reste à ce moment-là. Imaginativement, vous voyez. Alors, c'est très important de comprendre que La charité est infuse et nous donne cette nouvelle relation vis-à-vis de l'Esprit Saint. Et qu'il est nécessaire qu'il y ait quelque chose de nouveau, parce qu'on passe de l'ordre naturel à l'ordre surnaturel. Et cet ordre surnaturel se fait dans la foi. Donc dans l'obscurité de la foi, dans les tâtonnements de la foi et les tâtonnements d'espérance. S'il y avait la vision béatifique, c'est bien évident. Dans la vision béatifique, vous ne pourrez plus vous détourner de l'Esprit Saint. Vous serez tellement saisi par l'Esprit Saint que vous ne pourrez plus vous détourner. Mais ici sur terre, vous l'aimez à travers la foi qui implique l'obscurité, à travers l'espérance qui implique les moyens pauvres. Alors à certains moments, vous avez l'impression que c'est stupide ces moyens pauvres. C'est impossible, vous voyez, il y a que des moyens pauvres. Et puis il y a foi, c'est juste honnête. C'est pour ça que c'est héroïque d'aimer l'Esprit Saint. Alors que normalement, c'est très facile. Selon l'objection, c'est très très facile. L'Esprit Saint, c'est ce qu'il y a de plus aimable. Il n'y a pas une personne aussi aimable que l'Esprit Saint. Donc tomber amoureuse de l'Esprit Saint, c'est tellement simple. C'est la personne la plus aimable qui soit. Vous cherchez, vous n'en trouverez jamais de plus aimable que le Saint-Esprit. Alors, je disais, aimer, ah oui, mais je ne le vois pas. Oui, je ne le vois pas. Ça me dit que je vois les autres choses. C'est ça notre vie, hein, c'est constamment ça. On voit très bien. On sait dans la foi, on le sait dans l'espérance que c'est la personne la plus aimable. Mais, hein, il y a tous les exercices. Alors, troisième objection, l'apôtre écrit « La fin du précepte, c'est la charité, sortant d'un cœur pur. Finis preceptis scaritas de corde bono. » Donc d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Or, ces trois qualités appartiennent à des actes humains. Il a de la chance, hein. C'est le cœur pur, la bonne conscience et la foi sincère. Or, ces trois qualités appartiennent à des actes humains. La charité est donc produite en nous par nos actes antérieurs. Elle n'est donc pas un habitus infus. Alors, saint Thomas répond. Oui, c'est l'aspect ramener. Au fond, les objections veulent ramener la charité tout simplement un appétit naturel. C'est très actuel, hein, ça. Je vous le dis, très actuel. Je l'ai revu dans plusieurs revues. Plusieurs fois, c'est dit aujourd'hui. Ne distinguons surtout pas l'amour surnaturel de l'amour naturel. Surtout pas. Comprenons qu'il n'y a rien de plus naturel que l'amour surnaturel. J'ai vu ça imprimé dans de bonnes revues. Vous voyez ? Eh oui, c'est pas ça. L'amour surnaturel reste toujours pour nous surnaturel. C'est-à-dire qu'il demande toujours un effort. Tandis que s'il était naturel, mais il ne demanderait pas d'effort. Vous voyez, c'est la spiritualité à Barbravant. Bon, on n'accepte plus la taille du Père. Et la taille du Père, c'est parce que justement, c'est surnaturel. Alors il faut tailler, parce que le sauvageon pousse. Pas plus vite que la grâce, mais le sauvageon plus pousse d'une manière dont je suis plus conscient, au point de vue psychologique. Quand il est dit que la charité procède en nous d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, ex corde bono est conscientia pura et fide non ficta. Donc elle procède en nous d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est beau les trois. Hein. Vous voyez la manière de regarder les trois aspects. Cela doit s'entendre de l'acte même de la charité, acte qui est excité dans sa ferveur par l'état d'âme dont il est parlé. On pourrait encore dire que ces attitudes intérieures disposent l'homme à recevoir la charité. Dans un sens similaire, saint Augustin écrit que la crainte introduit en nous la charité et la glose sur saint Matthieu que la foi engendre l'espérance et l'espérance la charité. On pourra dire ça, c'est essayer de comprendre à l'intérieur même des trois vertus théologales comment il y a un lien entre la foi, l'espérance et la charité. Et qu'on peut dire que la foi engendre en nous la charité. C'est très vrai, mais ça ne veut pas dire que la charité n'est pas infusée. Ça veut dire que c'est à l'intérieur de notre vie chrétienne qu'il y a un lien entre les trois vertus théologales. C'est tout simplement ça que saint Thomas répond. Vous voyez ? Alors que l'objection consistait à dire, mais oui, puisqu'il y a un lien, il y a nécessairement, donc ça vient en troisième lieu. Donc elle n'est pas infuse. La charité est directement infusée par l'Esprit-Saint. Par la grâce, c'est évident, c'est par la grâce que nous est donnée la charité. Mais c'est directement, c'est la grâce nous est donnée gratuitement par l'Esprit-Saint au plus intime de notre âme, et en même temps la charité est communiquer au plus intime de notre volonté, donc au plus intime de notre cœur profond. Et par la charité, notre cœur profond prend une dimension divine. Notre volonté prend une dimension divine. Vous voyez, notre volonté n'est plus seulement à un niveau humain d'appétit intellectuel, d'appétit spirituel. Notre volonté prend alors une dimension divine, d'une profondeur divine. C'est que notre volonté est ennoblie par la charité et elle pénètre dans le mystère de Dieu. Elle peut vouloir ce que Dieu veut. Pas de difficulté ? On peut continuer ? La charité nous est-elle infusée en proportion de nos capacités naturelles ? Ça, c'est facile. Le prologue de saint Jean le dit. C'est bien évident que notre charité n'est pas infusée selon nos capacités naturelles. Heureusement, c'était selon nos capacités naturelles. C'est pour ça qu'on ne peut jamais juger le degré de charité de chacun. Oui. Vous voyez quelqu'un d'une générosité naturelle extraordinaire. C'est un arbre à vent merveilleux. Merveilleux, c'est extraordinaire. Et puis, la charité doit, petit à petit, surnaturaliser cette générosité. Parce que la charité, c'est pas la générosité. Hein. C'est pas la même chose. La générosité est d'ordre psychologique. C'est d'ordre humain, la générosité. Vous avez des Marie de Magdala qui sont extraordinaires, mais qui, parfois, tombent complètement à côté. C'est le sauvageon. Il y a des sauvageons qui sont merveilleux. Des Marie de Magdala, c'est des sauvageons étonnants. C'est extraordinaire. Quand on a rencontré une Marie de Magdala dans sa vie, on dit, c'est merveilleux. On dit, pourvu que le Saint-Esprit la prenne pour en faire une sainte. Mais il faut que le Saint-Esprit la saisisse. Et quand le Saint-Esprit saisit une Marie de Magdala, la taille du Père est fameuse. Avant que la charité, avant que la générosité soit complètement transformée en charité, la taille du Père. Le Saint-Esprit aime beaucoup les Marie de Magdala parce qu'il peut tailler. Il peut tailler, il peut couper beaucoup. Tandis qu'il y a quelquefois d'autres, hein, on voit très bien, je ne dis pas des figuiers qui ne portent plus beaucoup de fruits, qui ont l'air d'être un peu rabougris. C'est vrai, il y a des natures comme ça psychologiquement. On n'en peut rien, du reste, on n'en peut rien. Il y a un vieil atavisme en nous. On avait des vieilles tantes complètement rabougries. Alors, que voulez-vous, ça peut arriver, ça. Et alors, ces vieilles tantes, elles se retrouvent dans les petits-neveux. Hein. Ils sont rabougris. Alors ça, le Père taille autrement. Le Père taille autrement. Il ne faut pas dire que... Alors, la sainteté est exclue. Non, pas du tout. Vous aurez une sainteté cachée derrière l'arbre rabougri. C'est pas très drôle, c'est pas très attirant, mais ça fait rien. Le Saint-Esprit fait il s'en tire quand même. Et il peut arriver à faire des saintetés très étonnantes comme ça. Oui, on ne peut pas juger de l'extérieur. Je vous l'ai dit, c'était ce bon père Carme qui m'avait dit, en allant, quand j'allais dans un Carmel, « Oh, vous allez voir une contemplative !» Alors, tiens. Mais oui, elle est sanguine. C'est très bien, c'est une Marie de Magdala. Alors elle est contemplative. Mais non, on ne peut pas. Il n'y a pas de tempérament contemplatif. Non. Il n'y a pas de tempérament contemplatif. C'est la grâce qui fait de nous des contemplatifs. Ce n'est pas notre tempérament. Alors la grâce s'enracine dans un tempérament généreux, dans un tempérament rabougri, dans un tempérament... Très bien, c'est moins attirant, c'est sûr. Mais Dieu peut quelquefois faire des choses très étonnantes et merveilleuses. Hein. Dieu se sert de tous les tempéraments, chacun d'entre nous. Alors c'est ça qui nous est montré ici. Hein. La charité nous est infusée, est-elle infusée en proportion de nos capacités naturelles? Voici, je vous lis simplement. Saint Jean nous avertit que l'esprit souffle où il veut. Ça, c'est très bon. Et Saint Paul, le même esprit, parce qu'on pourrait mettre aussi le texte du prologue. Hein. Ce n'est ni selon l'atavisme, ni selon la volonté de l'instinct, ni selon la volonté humaine. Mais nous sommes engendrés par Dieu. Le même et unique esprit opère toutes ces choses en distribuant à chacun ses dons, comme il lui plaît. La charité n'est donc pas donnée en proportion des capacités naturelles, mais selon la volonté de l'esprit qui distribue ses dons. Alors, voici le corps de l'article. La quantité de chaque chose dépend de sa cause propre. Car l'effet d'une cause est d'autant plus grand que cette cause est plus universelle. Or, plus la charité se présente comme étant hors de proportion avec la nature humaine, ainsi qu'on l'a vu, elle ne peut pas provenir d'une cause naturelle, mais seulement de la grâce du Saint-Esprit qui l'infuse en nous. Et c'est pourquoi la mesure de la charité ne dépend pas des conditions de la nature humaine, ni de la capacité de la vertu naturelle, mais seulement de la volonté du Saint-Esprit, distribuant ses dons comme il l'entend, selon le bon plaisir du cœur de Jésus. D'où ces paroles de l'apôtre, à chacun de nous la grâce est accordée selon la mesure du don du Christ. C'est Jésus qui est la mesure de la charité pour chacun d'entre nous. C'est l'Esprit Saint qui, selon le cœur du Christ, et la mesure de la charité. Ce n'est pas nos capacités humaines. Ce n'est pas nos capacités humaines. Première objection. Il est dit dans Saint Matthieu qu'il est donné à chacun en proportion de sa vertu personnelle. Mais dans l'homme, il n'y a pas de vertu autre que la vertu naturelle qui puisse précéder la charité. Puisque, avons-nous dit précédemment, sans charité, il ne saurait y avoir de vertu parfaite. Dieu infuse donc la charité de l'homme en proportion de sa vertu naturelle. Réponse, la vertu en proportion de laquelle Dieu octroie ses dons est, chez celui qui les reçoit, une disposition et une préparation précédente, comme un élan de l'âme pour accueillir la grâce. Mais le Saint-Esprit prévient cette disposition ou cet élan, et selon sa volonté, il meut plus ou moins l'âme de l'homme. C'est pourquoi l'apôtre dit, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Vous voyez, c'est l'Esprit-Saint qui lui-même prévient. C'est l'Esprit-Saint qui lui-même agrandit notre cœur pour que notre cœur soit capable de recevoir la charité. Mais ce n'est pas notre volonté propre. Notre volonté propre n'est que de l'eau. Et l'action du Saint-Esprit, c'est de transformer en vin. Enfin, il ne faut pas l'oublier. Nous, c'est uniquement la bonne volonté. Et cette bonne volonté même, elle provient de Dieu qui agrandit notre cœur à la dimension de Dieu. Je crois qu'on peut tout de suite... Regardez l'article 4, parce que c'est facile, une fois qu'on a compris le principe. La charité peut-elle être augmentée? Ça, c'est une très grande question. Saint Augustin dit, la charité mérite d'être augmentée, afin qu'une fois accrue, elle mérite de devenir parfaite. La charité nous est donnée gratuitement, mais la croissance de la charité dépend de nous. Ça, c'est toujours ce qu'il faut se rappeler. Les vertus théologales nous sont données gratuitement, mais la croissance des vertus théologales nous est laissée à notre bon plaisir. C'est nous qui permettons la croissance de la charité dans la mesure même où nous coopérons. C'est pour ça qu'il ne faut jamais résister au Saint-Esprit. Alors, voici le corps de l'article. La charité d'ici-bas peut être augmentée. Alors, la charité d'ici-bas, c'est la charité de la voie, vieillée. Hein. C'est la charité de la terre. Elle peut être augmentée grâce au conditionnement de la foi et de l'espérance. Si on voyait Dieu, on ne pourrait plus croître dans la charité. On peut croître dans la charité parce que, justement, nous sommes dans une condition de croyant et une condition de pauvre type qu'espérons. La charité d'ici-bas peut être augmentée. Nous sommes appelés voyageurs parce que nous sommes en marche vers Dieu. Terme final de notre béatitude. Sur ce chemin, nous progressons d'autant plus que nous approchons davantage de Dieu. Et ce ne sont pas des pas corporels qui nous en rapprochent, mais les affections de notre âme. Vous voyez, l'opposition est très jolie. Hein. Ce n'est pas des pas corporels, sensibles, mais affectibus mentis, des affections de notre âme. Ce n'est pas des sentiments, hein. C'est tout simplement des actes de volonté. Des actes de bonne volonté. Quand vous faites un acte de bonne volonté, c'est pour ça qu'il faut multiplier des actes de bonne volonté. Des affections de notre âme. Or, c'est la charité qui effectue ce rapprochement puisqu'elle unit notre âme à Dieu. C'est la charité elle-même qui nous pousse à faire ces actes de charité. Et c'est pourquoi il est de la nature de notre charité ici-bas de pouvoir être augmentée, car autrement ce cheminement progressif qui caractérise notre condition terrestre n'existerait plus. Or l'apôtre appelle-t-il la charité une voie ? Quand il dit à propos de la charité, je vous montre une voie plus excellente encore. Nous sommes orientés vers Dieu et nous devons progresser sur cette voie. La charité nous montre l'orientation que nous devons prendre, la route que nous devons prendre. Et la charité est là pour nous pousser à poser des actes de charité toujours plus éminents. C'est ça, c'est les actes éminents. C'est là où on peut se poser la question, vous voyez. On dit que la profession religieuse est un acte de charité parfaite. Pouvez-vous expliquer théologiquement pourquoi cet acte parfait, étant donné que la personne consacrée reste limitée et qu'elle aura à toujours grandir dans la charité? Oui, c'est pas le jour de la profession, on dit j'atteins le plafond, maintenant j'ai plus qu'à me reposer. C'est au contraire un point de départ. Mais l'acte de charité de la profession est un acte parfait qui doit normalement expliciter tout le capital d'amour que nous avons. Il n'y a pas que l'acte de profession, mais l'acte de profession exige un don total de nous-mêmes. Et donc c'est un acte de charité parfait. Et c'est pour ça que saint Thomas dit que si on mourait immédiatement après la profession, on entrerait directement dans le ciel. Vous voyez, le purgatoire étant le noviciat. Alors on n'a pas besoin, c'est le noviciat qui nous permet d'entrer directement dans le ciel. Et à l'acte de charité, la profession perpétuelle, la profession solennelle, la profession religieuse, au fond toute profession religieuse, doit être un acte parfait. Parce qu'on ne fait pas de réserve. C'est le lendemain de la profession qu'on fait des réserves. Mais ce n'est pas le jour de la profession. Le jour de la profession, on est totalement donné. Et ce qu'il faut, c'est maintenir ce don tous les jours pour progresser. Oui. Parce que dès qu'on se replie sur soi, on fait des réserves. Alors qu'on ne doit pas faire de réserves. On doit se donner totalement. Et dès qu'on se donne totalement, c'est un acte de charité parfait. Et un acte de charité parfait nous met dans le ciel. Ça qui est merveilleux. Nous fait entrer dans le ciel. Commençons toujours notre raison par un acte de charité parfait. Et nous entrons dans le ciel. Acte d'adoration qui s'achève dans un don total de tout nous-mêmes. Donc, vous voyez, c'est assez facile à comprendre. comment la charité nous unit à Dieu. Alors c'est ça qu'il faut comprendre, que la charité nous unit à Dieu. Donc là, c'est l'absolu. On ne peut pas aller plus loin. Hein. Je suis uni au Saint-Esprit, directement et immédiatement. Mais dans mon exercice de charité, je peux augmenter. C'est l'exercice de la charité. La charité, du côté de son objet, touche une fin. Mais du côté de son exercice, non. Oui. Alors c'est là, vous voyez, où, par rapport aux orthodoxes, hein, on devrait leur dire, parce que les orthodoxes reconnaissent, hein, et dans toute la grande tradition orthodoxe, on reconnaît qu'on progresse dans la charité. C'est bien évident. Regardez la grande spiritualité du Mont Sinaï. Elle reconnaît ça. Saint Jean Clignac reconnaît qu'il y a un progrès dans la charité. Et que pour... C'est-à-dire de ma volonté. Et elle prend possession de ma volonté dans la mesure même où justement l'exis vient informer, enraciner. Vous voyez, c'est une manière de montrer qu'il y a nécessairement quelque chose de créé dans ma volonté. Autrement, il n'y aurait pas besoin de cet exercice. Et que cet exercice réclame ma bonne volonté. Et ça, c'est l'Évangile. Hein. Et c'est toute la grande tradition des pères de l'Église, toute la tradition des ermites. Il faut progresser dans la charité. Il ne faut pas perdre de temps. On n'a pas le droit de perdre de temps. Il faut progresser. Et donc, progresser, c'est augmenter et intensifier cet exercice de la charité avec la plus grande ferveur qui soit. C'est-à-dire avec la plus grande intensité d'amour qui soit. Alors, tout acte, vous voyez, d'hésitation, de repli sur soi, arrête cet exercice. Et donc, empêche le progrès de la charité. C'est la grande exigence de la charité, ça. De progresser toujours, toujours plus. Je vous montre une voie plus excellente encore. C'est très beau. Du reste, cette exégèse de la voie, hein, parce que c'est l'exégèse de la voie, la viam. Une voie, ben, c'est une route. Une route demande qu'on marche dessus. N'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on progresse, qu'on aille toujours plus loin. Et donc, la charité implique en elle-même cette orientation et cette possibilité de progrès. Alors, si vous identifiez la charité avec l'Esprit Saint, il n'y a pas de progrès. C'est impossible. Ce n'est pas une voie. Mais dire que la charité est une voie, ça prouve qu'elle est inscrite en moi et qu'elle m'oriente. Parce que la voie ne peut être que du côté de l'homme. Ça peut être que du côté de l'homme. La voie ne peut pas être le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une voie. Il est la mort. Jésus est une voie dans son humanité sainte. Mais il n'est pas une voie en tant que Verbe. Or, l'Esprit Saint, lui, n'étant pas incarné, ne peut être voie que par le fait qu'il est participé en nous, par la charité. Je vois la première objection. Seul peut augmenter ce qui est d'ordre quantitatif. Ça, c'est l'objection, hein. Grosse. Seul peut augmenter ce qui est quantitatif. Alors, vous voyez, ça va loin. Donc, vous ne pouvez pas devenir plus intelligent. Il y a deux sortes de quantités, la quantité dimensive et la quantité virtuelle. Ça, c'est une très belle objection. La première ne saurait convenir à la charité, puisque celle-ci est une perfection spirituelle. Vous voyez, ça nous introduit dans le cours de la quantité, ça. C'est ça, c'est la quantité virtuelle et la quantité dimensive. La quantité virtuelle se dit par rapport à des objets nouveaux auxquels progressivement on s'étend. Or, la charité ne s'accroît pas en s'étendant progressivement à d'autres objets, puisque la plus minime charité aime tout ce qui doit être aimé en charité. Donc, la charité n'augmente pas. La charité n'a rien à voir avec l'ordre quantitatif. Ça, c'est très vrai. Elle est d'ordre qualitatif, la charité. Or, seul ce qui a rapport à la quantité peut augmenter. C'est vrai que vous augmentez de poids. Hein, c'est un idéal. Donc, vous augmentez de poids. C'est quantitatif, ça. C'est tout à fait quantitatif. Alors, réponse. La quantité dimensive ne saurait convenir à la charité, mais seulement la quantité virtuelle. Ça, c'est la réponse de saint Thomas. La quantité virtuelle ne doit pas seulement s'étendre d'une extension à une plus grande ou une moins grand nombre d'objets, comme si on en venait à aimer plus de choses ou moins de choses. Mais elle doit s'étendre, mais elle doit s'entendre de l'intensité de l'acte, lorsque, par exemple, on aime plus ou moins quelque chose. Et c'est bien de cette manière qu'augmente la quantité virtuelle de la charité. Donc la quantité virtuelle de la charité augmente de cette manière. Donc c'est du côté de l'intensité, on dirait. Une intensité toujours plus grande. Alors, du côté de l'intensité, il y a comme une quantité virtuelle. Il faut bien comprendre, ça c'est un langage très particulier, c'est métaphorique. Hein. On transporte le domaine de la quantité au domaine de la qualité. C'est métaphorique, et on comprend très bien ce langage, parce que notre conditionnement humain est toujours dans la quantité. C'est dans la quantité. Alors on prendra ce langage de quantité dimensive, ça on comprend très bien, c'est le continu, la quantité dimensive. La quantité virtuelle, c'est l'intensité. Alors du côté de la quantité virtuelle, on pourra parler d'un augment de la charité, dans la mesure même où la charité s'enracine davantage en nous et prend possession plus profondément de notre cœur. À ce point de vue-là, on dira que la charité augmente. Du reste, dans le langage courant, c'est ce que vous dites. J'ai plus de facilité d'aimer, je sens que ça augmente. C'est vrai, au début de votre vie religieuse, vous aviez de la peine pour une quantité de choses. Vous voyez la difficulté qu'on a pour se lever tôt, au début. Puis au bout d'un certain temps, ça s'enracine en nous d'une manière telle qu'on n'a plus de difficulté. Ça devient comme une nouvelle nature. Et là, ça s'enracine en nous. C'est plus facile, j'ai moins de difficultés. C'est l'habitus qui s'enracine. Alors, seconde objection. Ce qui est au terme de son achèvement n'a plus augmenté. Or, la charité est un achèvement, un terme, puisqu'elle est la plus excellente des vertus, l'amour souverain du bien le plus parfait. Elle ne peut donc pas être augmentée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La charité a quelque chose d'absolu quant à son objet. Si la charité a quelque chose d'absolu quant à son objet, je ne peux pas aller plus loin. Aimer le Saint-Esprit, c'est ce qu'il y a de plus parfait. Aimer le Saint-Esprit, par l'Esprit Saint, aimer le Père, et dans l'Esprit Saint, aimer le cœur de Jésus. C'est ce qu'il y a de plus parfait. Je ne peux pas aller plus loin. Donc, parlez pas d'intensité de charité. La moindre charité atteint un absolu. Et c'est vrai. Alors, voici la réponse de saint Thomas. La charité représente un terme, un sommet, en ce sens que son objet est le souverain bien, d'où il suit qu'elle est la plus excellente des vertus, c'est bien évident. Mais au point de vue de l'intensité de l'acte, donc du point de vue de l'exercice, toute charité n'est pas à son terme d'achèvement. Je peux aimer plus ou moins. On le sait très bien. Il y a des jours où on a l'impression que notre cœur aime d'une façon telle qu'il va éclater. Très très bien. Il va éclater en Dieu. Non, c'est un éclatement merveilleux en Dieu. Mais puis il y a d'autres jours où on a beaucoup de peine à se recueillir et à aimer vraiment. On est pris par un tas de choses. Oui, alors on voit très bien que du côté de l'exercice, il y a des intensités plus ou moins grandes. Troisième objection. Ce qui augmente est un mouvement d'évolution. Donc, ce qui augmente essentiellement évolue essentiellement. Ce qui veut dire se corrompt ou bien est engendré de nouveau. Donc, pour que la charité augmente essentiellement, il faudrait qu'elle disparaisse et qu'elle revive de nouveau. Ce qui n'est guère admissible. Alors, réponse. Quelques-uns ont enseigné que la charité augmentait, n'augmentait pas dans son essence, mais seulement dans sa ferveur, ou par son enracinement dans le sujet. C'est ignorer le sens des mots. Ça, c'est tout à fait propre. Saint Thomas dit ça aux théologiens. C'est ignorer le sens des mots. Sed his proprium vocem ignoraverunt. Ça, c'est bien un théologien qui attrape les autres théologiens, n'est-ce pas? Ils disent, vous ne connaissez pas et vous ne comprenez pas ce que vous dites. La charité est un accident. Son être consiste précisément à exister dans un sujet. Donc, augmenter selon son essence, c'est être davantage dans son sujet, s'y enraciner davantage. Pareillement, la charité est essentiellement une vertu ordonnée à l'acte d'aimer. Par conséquent, ce sera la même chose de dire que la charité augmente dans son essence ou de dire qu'elle a la vertu de produire un acte plus fervent de dilection. Ainsi donc, la charité augmente essentiellement, non pas en ce sens qu'elle commence d'exister ou qu'elle cesse d'exister dans un sujet, comme le voulait l'objection, mais en ce sens que dans le sujet où elle se trouve, elle s'établit de mieux en mieux. Voyez l'objection et la réponse. Hein ? Saint Thomas répond, quand on parle d'augmentation de la charité, il s'agit de comprendre qu'il s'agit d'un enracinement de la charité en nous. C'est comme ça qu'augmente un habitus. L'exis augmente dans la mesure où il s'enracine plus dans le sujet. Donc, l'habitus de charité augmente dans la mesure où il prend possession davantage de toutes les forces du sauvageon qui est en nous, c'est-à-dire de la volonté. C'est comme ça qu'augmente la charité. C'est s'enraciner de plus en plus en nous. Et alors, en s'enracinant de plus en plus en nous, la charité assume toutes les virtualités de notre volonté et les oriente vers Dieu. C'est exactement l'image du sauvageon. C'est ce que les pères de l'Église aimaient tellement. Vous allez tout de suite comprendre. Vous avez tous vu une greffe. Une petite image. On voit la greffe au début. Alors, le sauvageon, au début, la sève n'est pas entièrement canalisée par le sauvageon. C'est pour ça qu'il y a des petites pousses et on vient les tailler pour que la sève aille de plus en plus. Quand la greffe augmente, elle capte toute la sève du sauvageon. Elle s'enracine de plus en plus. Et elle peut capter tout. C'est une image, c'est une image de ce mystère de la charité qui s'enracine dans notre volonté et s'enracinant dans notre volonté capte de plus en plus toute notre volonté. Mais tant qu'on est sur la terre, il y aura toujours possibilité, c'est ce qu'on verra, du sauvageon de se mettre à ruer. C'est-à-dire que le sauvageon, de temps en temps, dira « Non, 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 je ne veux pas. » Mais on a en nous deux hommes. Il y a en nous la volonté, le sauvageon, et puis la charité. La charité nous pousse vers l'Esprit Saint et nous fait dire qu'il n'y a qu'une seule chose d'importante dans la vie, c'est d'accomplir pleinement et totalement la volonté de l'Esprit Saint. Ça, c'est sûr. Ça, c'est le langage de la charité. Et puis le sauvageon, il louche. Alors il dit oui, oui, mais. Vous voyez ? Alors c'est la volonté propre qui, alors à ce moment-là, lutte contre les exigences de la charité. Et puis au bout d'un certain temps qu'il y a une lutte, on ne voit plus clair du tout. Et alors on confond. On dit oui, je veux faire la volonté du Saint-Esprit. Oui, et la volonté du Saint-Esprit, c'est quoi ? Tout simplement ma volonté propre. C'est la confusion qui s'est mêlée. Alors on ne voit plus ce que c'est que la volonté du Saint-Esprit et notre volonté propre. Et alors, la charité augmente en nous dans la mesure où elle saisit tout le capital d'amour qui est en moi, tout mon capital de bonne volonté. Mais encore une fois, tant que je suis sur la terre, les conséquences du péché originel demeurent. Et donc, il y aura toujours possibilité à l'orgueil d'attirer ma volonté propre vis-à-vis de ce que moi je décide et non pas ce que l'Esprit Saint décide. Tant qu'on est sur la terre, il y a une possibilité de péché. Or, le péché, c'est tout simplement notre volonté propre qui se met en opposition vis-à-vis de la volonté du Saint-Esprit. Et sentir ce dualisme en moi n'est pas une faute, le sentir. C'est tout simplement de la lucidité. C'est de savoir qu'en moi, il y a toujours une volonté propre qui est cette volonté qui provient du sauvageon. Volonté humaine, volonté propre au point de vue humain. Et puis de sentir l'appel de l'Esprit-Saint. Tant qu'on sent la dualité, il n'y a rien de mauvais. C'est lorsque je ramène, alors où je ramène tout au Saint-Esprit, alors c'est merveilleux, c'est héroïque, j'accepte la taille du Père. Et je l'accepte dans l'obscurité de la foi, dans la pauvreté de l'espérance. Je l'accepte. Je ne veux faire que la volonté du Père dans l'obéissance. Je n'accepte que dans l'obéissance au Saint-Esprit, dans l'obéissance à ceux qui sont pour moi les représentants de Dieu. Alors j'accepte cette volonté. Et c'est là la taille du Père, où toute la sève du sauvageon, toute ma capacité de vitalité qui est dans mon âme humaine, dans ma volonté humaine, j'accepte qu'elle soit canalisée par la greffe, par la charité. Ou au contraire, je dis non, j'en ai assez. Je suis fatigué, j'ai lutté suffisamment, je suis fatigué, ça lutte. Alors je suis comme le prophète. Même le prophète a fait ça quand il était fatigué, Élie. Il s'est assis en disant, Seigneur, je ne vaux pas meilleur que mes pères. Vous voyez, il a fait appel à une tradition. Je ne vaux pas meilleur que mes pères et je m'arrête, c'est suffisant, je ne veux pas aller plus loin. Ça, et puis alors, Dieu l'a ramené avec une petite galette. On voit très bien ça, c'est ça. C'est l'Eucharistie qui, alors, à ce moment-là, nous donne la lumière pour pouvoir faire pleinement et totalement la volonté de Dieu. C'est extraordinaire, ça, quand on voit. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment ce qui nous est montré ici, ce que saint Thomas nous montre ici. Que la charité augmente en s'enracinant dans notre volonté propre, dans notre capacité d'aimer. Est-ce qu'il y a des questions? On va arrêter. Et on continuera la fois prochaine. On continuera sur cette question de comment la charité est reçue dans la volonté. C'est très beau. Parce que c'est de voir comment la charité, notre volonté est enveloppée de la nuée. Et donc notre volonté humaine, enveloppée dans la nuée, va connaître une profondeur nouvelle et va connaître une possibilité d'aller plus loin.